Romain Esmangeau, bonjour.
Bonjour.
Dans votre rapport, vous soulignez que les ex-Séléka se rapprochent depuis plusieurs mois de certaines factions anti-Balaka. Pourquoi ce renversement d'alliance?
Effectivement, bon, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles, c'est de vouloir ne pas apparaître en première ligne dans les affrontements. Pour certains leaders de l'ex-Séléka, il peut être plus pratique de, en quelque sorte, sous-traiter les combats à des entités anti-Balaka.
Ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une alliance du FPRC de Nourdine Adan et d'Abdoulaye Hissène et des anti-Balaka contre la communauté Peul et l'UPC d'Ali Darras.
Oui, c'est exact. C'est là qu'on a une forme de coalition ponctuelle entre certains éléments anti-Balaka et les factions de l'ex-Séléka que vous mentionnez. C'est cette volonté d'évincer Ali Darassa et l'UPC, son groupe, dans la mesure où ils perçoivent ce groupe-là comme un groupe d'étrangers. Et il y a toute une rhétorique contre la communauté Peul qui est présentée comme une communauté étrangère et qu'il faudrait évincer de Centrafrique. Et c'est une rhétorique, malheureusement, qui est de plus en plus forte et qui est malheureusement efficace pour mobiliser des combattants contre des Peuls qui n'ont rien à voir avec l'UPC.
Et au regard de ce que vous venez de dire, comment explique-t-on le grand massacre de Bangassou à 500 km à l'est de Bangui? C'était le 13 mai dernier, on a déploré 72 morts, notamment dans la communauté musulmane.
Un des éléments, c'est qu'il y a eu un ciblage de la communauté musulmane dans cette ville. Et là, on a des milices locales qui étaient frustrées par la présence croissante de l'UPC d'Ali Darassa depuis que celui-ci est sorti de Bambari en février. Et par ailleurs, il y avait des individus avec des agendas plus larges, des agendas nationaux, peut-être du côté de Monsieur Bozizé, l'ancien président, peut-être du côté d'autres politiciens à Bangui qui ont instrumentalisé aussi ces frustrations locales.
Alors vous parlez de François Bozizé, on se souvient de la rencontre surprise entre les anciens présidents Djotodia et Bozizé, c'était à Nairobi il y a 2 ans et demi, en 2015. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'alliance entre les Séléka, Nourdine Adan, Abdoulaye Hissène et les anti-Balaka comme Maxime Mokom, eh bien cela se fait sur la même base?
Non, je ne crois pas. Effectivement, les contacts qui ont été noués à cette époque-là existent toujours. Il est certain que l'ancien président Bozizé et Maxime Mokom, son neveu, exercent une certaine influence sur certains de ces éléments. Mais il y a une multitude d'acteurs qui peuvent les instrumentaliser. Et donc, c'est très pratique de revoir la réactivation de ce grand complot nairobiste, comme on dit. Mais disons que c'est une réalité de la situation actuelle parmi d'autres.
Votre rapport, Romain Esmangeau, s'intéresse aussi aux sources d'approvisionnement en armes. Commençons par les ex-Séléka. Vous dites que le principal point d'entrée des armes se trouve à Tissi. C'est à l'intersection des trois frontières de la Centrafrique, du Tchad et du Soudan.
Alors, dans notre rapport, en effet, on identifie quelques points d'entrée. Pour les ex-Séléka, on mentionne plusieurs points le long des frontières tchadiennes et soudanaises. Et Tissi est l'un d'entre eux. On mentionne aussi Amdafok, du côté soudanais, et du côté tchadien, Vernda, Ungarba. Ça, ce sont les points d'entrée qu'utilisent le FRC d'Abdoulaye Hissène et Nourdine Adan. Plus à l'ouest, vers Markunda, vers Sido, là, ce sont plutôt les routes d'approvisionnement qu'utilise le MPC de Mahamat Al-Khatim. Et ce qui est intéressant de souligner là-dedans, c'est que les grands leaders du FRC et du MPC sont eux-mêmes personnellement impliqués dans ces trafics et dans la logistique en allant chercher eux-mêmes les armes, parfois au-delà de la frontière, au Soudan ou au Tchad, et ceci malgré l'interdiction de voyager dont certains sont l'objet. Je pense à Nourdine Adan, Harun Gai et Abdoulaye Hissène qui sont sous sanction. Étant entendu que dans notre rapport, il n'y a rien qui laisse entendre que tous ces trafics venant de ces pays, rien qui indique que cela soit fait avec la complicité ou avec la participation active des autorités de ces différents pays, que ce soit le Tchad et le Soudan.
Alors, côté anti-Balaka, maintenant, vous écrivez que le temps des vieilles pétoires est terminé et que les combattants de Patrice-Édouard Gaïssona et de Maxime Mokom s'approvisionnent en armes sophistiquées du côté du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa.
Oui, effectivement, il y a une certaine évolution du type d'armement des anti-Balaka, mais on n'y va pas aller jusqu'à dire que le temps des pétoires est terminé. Ça reste le type d'armement principal que les groupes anti-Balaka utilisent. Ceci dit, effectivement, on voit que de manière ponctuelle, ils ont recours à des armements plus sophistiqués. La collaboration avec le FPRC de Nourdine Adan et Abdoulaye Hissène leur a permis de se procurer des armes un peu plus sophistiquées.
Mais vous dites que la provenance de beaucoup de ces armes et munitions, c'est la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Pourquoi Pointe-Noire?
Ce que mentionne le rapport, c'est qu'à de nombreuses reprises, le groupe d'experts a pu observer la présence de cartouches qui sont fabriquées à Pointe-Noire. Et à ce titre, il y a eu deux saisines importantes récemment, l'une en mai à Bangui par les autorités centrafricaines, l'autre en avril à Bangassou par la MINUSCA, et à chaque fois avec d'importants stocks de ces cartouches, qui donc venaient de la manufacture de cartouches congolaises, dont la principale fabrique se trouve à Pointe-Noire, donc en République du Congo. Mais ce qui rend difficile la traçabilité de ces cartouches, c'est le fait qu'elles n'ont aucun numéro de lot, aucun numéro de série. Et donc ça complique évidemment notre tâche pour identifier les trajets empruntés par ces cartouches.
Et ce que vous dites aussi, c'est que ces armes et munitions passent à la fois par le Congo-Kinshasa, via Zongo notamment, mais qu'elles passent aussi par le port fluvial d'Imfondo au Congo-Brazzaville.
Alors effectivement, il y a eu une intensification des trafics sur le flanc sud dans ces zones.
Romain Esmangeau, merci.